Alors, l'argent, la monnaie, c'est quoi l'argent? Alors, y a des définitions, et puis il y a une compréhension à avoir de ce que c'est. L'argent, à la base, ce sont... Ah, je ne vais pas faire tout l'historique, on n'a juste pas le temps. Aujourd'hui, l'argent, il est créé par ce qu'on appelle une base monétaire, ce qu'on appelle la monnaie banque centrale. Les banques centrales à qui la puissance publique a délégué, dans un premier temps, mais on va voir que c'est qu'une toute petite partie de l'histoire, le pouvoir de créer de l'argent. D'accord? Alors cet argent, il prend différentes formes. Les pièces, les monnaies, très marginales à l'échelle de tout le système, et puis ce qu'on appelle la monnaie scripturale, comptabilisée par la banque centrale à son passif. C'est-à-dire que quand vous prenez un bilan de banque centrale, il y a des actifs et puis il y a un passif. Le passif, c'est des dettes. Et la dette d'une banque centrale, ça va être une dette vis-à-vis des banques commerciales. Et ça va, c'est la base monétaire. D'accord? C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. D'accord? Ce qui est très important, c'est... On va faire 2 secondes d'étymologie. L'étymologie du mot fiduciaire, ça vient du latin fides, qui veut dire la confiance. Ah, tiens, il y a une notion de confiance. Ok. Deuxième temps, pour le moment, je suis dans le descriptif, puis après ça, on va voir comment tout ça se relie. Deuxième temps, il y a ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Scripturale, écrire. Hein. J'écris quelque chose. Et la monnaie scripturale, alors... Les économistes adorent diviser ça en différentes masses, M1, M2, M3 pour les spécialistes. Au fait, la monnaie fiduciaire dont je viens de parler, c'est M0. Vous savez quoi? On s'en moque. Enfin, on s'en moque. On peut plonger dans ce détail si on veut, mais ce qui compte, c'est de comprendre la logique. On a la monnaie banque centrale, puis ensuite, on a la monnaie créée par les banques commerciales. Et j'ai bien dit créée. Ce qui est très important, la chose la plus importante à avoir en tête, c'est que nous vivons dans des systèmes monétaires où les prêts font les dépôts. Cette phrase, elle est universellement vraie, les prêts font les dépôts. C'est-à-dire que quand vous et moi, on va emprunter 100 € à une banque pour acheter notre appartement ou acheter notre voiture, il y a 100 € qui sont créés par cette banque. À partir du moment où elle se dit, tiens, Madame Machin, je vous accorde ce crédit de 100 €, il y a 100 € qui sont crédités sur votre compte, ça devient une dette de la banque et ça devient un actif pour Madame Machin qui vient d'emprunter ces 100 €. Et ces 100 € elle peut en faire ce qu'elle veut, acheter sa voiture ou elle peut les placer dans une autre banque si elle le veut. Et c'est comme ça que l'argent est créé. C'est quelque chose de très très important à comprendre. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que, je vous rassure, je ne vais pas faire beaucoup de comptabilité, mais c'est-à-dire que là, une fraction du bilan d'une banque commerciale devient en fait la monnaie. C'est-à-dire que, et aujourd'hui dans nos sociétés, 95 à 97%, j'ai bien dit, allez, on va dire 95, le chiffre est plus simple à retenir, c'est un peu plus que 95. 95% de la monnaie qui circule est en fait une dette des banques commerciales. BNP Paribas, je parle France, hein, mais c'est pareil dans tous les pays. Crédit Mutuel, CIC, Crédit Agricole. Bon, vous m'avez compris. Donc plus de 95% de la monnaie est en fait une dette de ces banques privées vis-à-vis de nous, et puis on peut se l'échanger. Et la raison pour laquelle tout ça fonctionne, c'est qu'il y a une confiance. Il y a une confiance qui tient en fait que derrière des banques privées, il y a une banque centrale, et derrière des banques centrales, il y a la puissance publique. Je pense qu'on n'aura pas le temps, mais c'est peut-être l'une des questions essentielles au niveau de l'euro, c'est au fait qui est-ce qui est derrière la banque centrale. Mais si on commence à rentrer dans ce sujet, on va trop digresser. On l'abordera éventuellement dans les questions. C'est quoi une crise bancaire? Je le prends par ce biais-là, c'est vraiment important. Moi, ma description préférée d'une crise bancaire, c'est Mary Poppins. Je ne sais sais pas si vous avez en tête cette scène où le petit garçon va chercher ses 2 pence, ses 2 sous à la banque, son père est banquier, et puis on veut pas lui donner ses 2 sous, et il dit on veut pas me donner mes 2 sous, et il crée une panique bancaire où tous les clients veulent retirer leur argent, et la banque s'effondre. Une crise bancaire, bon, ça c'est dans Mary Poppins, mais Northern Rock qui crée une panique en septembre 2007 dans le système financier britannique, c'est rigoureusement la même chose. C'est l'instant où les clients d'une banque privée, le petit garçon dans Mary Poppins ou les clients de Northern Rock en septembre 2007, mais des exemples, il y en a d'autres, se disent « Ah tiens, la dette de cet établissement privé vis-à-vis de moi, je suis plus bien sûr, j'ai plus vraiment confiance » que cet établissement va être là. Donc, je veux convertir ma dette en face d'une banque privée en une dette en face, vis-à-vis la puissance publique. Donc, je veux transformer ma monnaie scripturale en monnaie fiduciaire. Voilà. Puisque je ne suis pas sûr que la banque X dans laquelle j'ai les sous sera encore là, j'aimerais mieux avoir en face de moi l'État, pour faire ça. D'accord ? Donc, en fait, on voit bien que même si on fait ces distinctions fiduciaires, confiance, scripturale, écriture, tatata, mais tout ça est fondé sur la confiance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important, à la fois pour comprendre ce qu'est la stabilité d'un système financier, mais également le processus de création monétaire. Parce qu'à partir du moment où la création monétaire vient de l'activité de prêt d'argent, on voit bien que mécaniquement, ça va suivre le développement de l'activité économique. Donc c'est un système qui permet de faire ça. Historiquement, encore une fois, on n'a absolument pas le temps de rentrer dans toute l'histoire de la monnaie, mais historiquement parlant, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, on a fonctionné dans des systèmes monétaires, déjà de monnaie métallique, et ensuite de systèmes dualistes, où il y avait par exemple la différence entre une unité de compte et puis le moyen de paiement. On vous disait, ça coûte 10 livres tournois et vous allez payer, et dans 10 livres tournois, il y a tant d'écus, et puis il pouvait y avoir à l'époque, ils appelaient ça une mutation, l'équivalent d'une dévaluation, il faut plus ou moins d'écus pour payer le livre tournois, etc., etc. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ce système, c'est-à-dire que l'unité de compte et le moyen de paiement sont alignés. C'est quelque chose qui est important et qui n'est pas donné. Un exemple qui est assez intéressant, que je trouve assez parlant pour bien comprendre cette notion de monnaie, expression d'une souveraineté monétaire, donc une souveraineté politique, parce qu'on viendra toujours aux politiques, c'est le fait que si vous et moi, on donne de la valeur au billet de 10 euros qu'on a dans notre poche, au bout du compte, c'est parce qu'on peut payer nos impôts avec. Si l'État nous dit, au fait, les euros que vous avez, vous ne pouvez plus payer vos impôts avec, je vous garantis que les tas de papiers de billets, ils ne vont pas valoir grand-chose. Le premier empereur de Chine, celui qui a unifié la Chine, Qin Shi Huangdi, 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est lui qui unifie la Chine, etc., etc., il a créé quelque chose qui était extraordinaire. C'est l'un des premiers exemples massifs de ce principe de la monnaie, expression d'une souveraineté. Il a créé des pièces ronde, avec un carré, un trou carré au milieu. Quand on connaît la symbolique chinoise, le carré c'est la terre, le rond c'est le ciel, et toute la symbolique chinoise c'est l'être humain entre terre et ciel, la terre sous le ciel, etc. etc. Qin Shi Huangdi, il a le génie de créer ces pièces rondes avec un carré au milieu qui sont l'expression du fils du ciel, de la souveraineté, je vous représente, etc. et qui sont complètement détaché du fait que ça soit lui ou ses successeurs. Et ces pièces, alors bien sûr, leur apparence a pu un peu évoluer, mais le principe même, on les retrouve encore, on les retrouvait, j'ai souvenir de voyages là-bas, il n'y a pas si longtemps que ça, on trouve encore des pièces comme ça aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de voir comment l'État va dire ce morceau de cuivre qui fondamentalement n'a pas de valeur intrinsèque, grand débat de l'économie et de la finance, c'est quoi la valeur des choses ? Voilà. Mais en tout cas, c'est une chose certaine, c'est que cette pièce, elle n'a pas de valeur. Elle va acquérir une valeur parce qu'elle est l'expression d'une souveraineté. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à avoir bien en tête. Après ça, de cette monnaie, il faut bien voir comment on passe de la monnaie au capital. Fondamentalement, la transformation de la monnaie en capital, elle va se faire par étapes. Dans un premier temps, la monnaie va être transformée en instrument financier. Et on voit bien qu'un instrument financier, ce n'est pas la même chose que de la monnaie. C'est une action, c'est une obligation. Pour faire simple, c'est les deux grands instruments financiers. Mais bien sûr, il y en aura d'autres. On l'évoquera tout à l'heure parce qu'on ne peut pas ne pas parler de ça si on veut comprendre le système financier aujourd'hui, tout ce qui s'appelle produits dérivés. Et puis, il y a une myriade de produits financiers. Mais j'ai envie de dire, ils sont déclinés de façon extrêmement diverse d'un point de vue juridique, parce que leur emballage juridique est différent, mais in fine, si on a dit action-obligation, on a dit l'essentiel de ce qui va compter pour allouer, parce que c'est de ça qu'on parle, allouer la monnaie à l'économie là où on a besoin, puisqu'une action, c'est une, pardonnez-moi de dire une évidence, c'est un type de propriété. Je suis propriétaire d'une fraction de l'entité X, de l'entreprise X. Et puis une obligation, c'est un type de créance. D'accord ? Donc une fois qu'on a dit soit je suis propriétaire de l'entité, soit je lui ai prêté de l'argent, on a quand même dit l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, et dans une certaine mesure c'est vrai, la finance c'est très compliqué. Oui mais non. Et derrière le nom, je pense que si on revient toujours à la base de « est-ce que je comprends la différence entre être propriétaire et prêter de l'argent ?» Dans un cas, ça m'appartient, et puis advienne que pourra, dans l'autre cas, j'ai prêté de l'argent, on me remboursera avec un taux. Si on comprend la différence entre acheter, vendre, prêter et emprunter, on a quand même compris l'essentiel de la finance. Je fais exprès de le ramener à des choses somme toute très simples. Et les moments où on se dit « mais je ne comprends plus comment est-ce que ça va fonctionner dans cette chaîne somme toute très simple », c'est probablement qu'il y a un petit peu d'enfumage. Donc il faudra toujours revenir à ces étapes. Donc on a une monnaie qui va être transformée en instrument financier, qui lui-même va être transformé, ou non, en capital productif. Et j'ai bien dit qu'il va être transformé ou non. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir dans quelle mesure cette monnaie transformée en instrument financier va être effectivement transformée en capital productif ou pas. Dans les petites interviews, tout est dit dans les petites interviews qui étaient dites là, que Frédéric nous a montré au début. Quelqu'un dit ce qu'il faudrait, c'est que l'argent aille aux entreprises, aux projets réels, aux gens réels. Dans mon vocabulaire, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Il y a une partie de l'argent transformé en instrument financier qui va aller au capital productif, à l'économie, à la société, aux entreprises, aux associations, aux gens qui font quelque chose avec cet argent. Et puis il y en a une autre partie, on y reviendra, qui va... Allez, je garde un tout petit peu le suspense, on va en parler tout à l'heure. Mais ça, c'est quelque chose qui est important à voir. Oui.
On fait circuit de
Merci. Benjamin Gros. Petite question qui est un tout petit peu après la question de la création monétaire et qui me semble faire le lien à ce que vous êtes en train d'exprimer sur la transformation en instrument financier puis capital productif ou et qui fait écho à des bruissements que j'ai pu un peu entendre sur qui crée à un moment la monnaie aussi, et puis des débats que j'ai pu avoir dans des organisations de finances solidaires par ailleurs. Oui, il y a une création monétaire au moment où la banque prête, et donc mais finalement, il y a un crédit, il y a une dette, donc on peut dire qu'il y a bien création de quelque chose qui apparaît dans des comptes et tout ce qu'on veut. Il y a un moment, par contre, ça va être remboursé, et ça va être remboursé, en tout cas pour ce qui est de la vie courante et de ce qu'on va appeler peut-être l'économie réelle ou quelque chose comme ça, par une production qui est tangible et qui est créatrice elle-même voilà, d'une valeur. Et donc, quelque part, est-ce que, in fine, la vraie création monétaire, c'est pas tout simplement le porteur de projet qui a créé de la valeur, qui est le créateur de j'allais dire d'une monnaie réelle, et pas d'une monnaie qui resterait un peu virtuelle et un simple jeu d'écriture.
Je pense que vous avez tout à fait la bonne intuition. Je mettrais juste un petit bémol, mais qui est purement sémantique, absolument pas de sens, sur le fait que ce n'est pas la vraie création monétaire, c'est la vraie création de valeur économique. La valeur économique, l'argent en tant que tel, c'est une énergie, c'est un moyen d'échange. Alors il y a les fonctions traditionnelles, argent, unité de compte, réserve de valeur, intermédiaire des échanges, bon, qui sont les trois échelles, dans tous les bouquins d'économie, on dit ça, et c'est vrai, d'accord. Donc, en tant que tel, l'argent, il ne va pas avoir créé de valeur. Donc, ce que vous dites, c'est que la valeur, elle est créée grâce à cette énergie économique et sociale qu'est l'argent. Et en fait, mais vous mettez le doigt sur quelque chose qui est vraiment fondamental, quoi. C'est vous et moi, si on n'a pas d'énergie le matin quand on se réveille, on ne va rien faire de notre journée. Voilà, c'est le jour où on est malade, c'est qu'on n'a pas d'énergie. Quand on n'a pas d'énergie, on ne fait rien. Voilà. Et quand on fait quelque chose, bah, voilà, il se passe des choses. Bah, c'est exactement la même chose. Mais donc, l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie économique, c'est une énergie sociale, totalement fondamentale. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est clairement pas le but. C'est un moyen. C'est un moyen. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ce que vous dites, en fait, y a des chiffres qui sont assez intéressants. Vous voyez, le bilan, un bilan de banque centrale, c'est un gros paquet de masse monétaire. Hein. Le bilan de la réserve fédérale américaine, entre 2000 et 2015, il augmente, je reprends le chiffre que j'ai noté là, de 500% en 15 ans. 500% d'augmentation, c'est pas mal. Le bilan de la banque centrale européenne, sur la même période, il augmente de 300%. Sur la même période, l'investissement productif, je dis bien l'investissement productif aux États-Unis, il augmente de 68%. Aux États-Unis et 43% en Europe. Et le PIB, qui est une mesure extrêmement imparfaite de la production économique, mais bon, allez, on va rester dans cette imperfection tellement utilisée, il augmente de 42% aux États-Unis et 24% en Europe. Donc, États-Unis, plus 500% sur l'augmentation de la monnaie banque centrale, 68% sur l'investissement, 42% sur la production. Et bon, Europe, 300, 43, 24. Et c'est exactement... Je relis ça à votre question. Si on vous dit, mais attends, je ne comprends pas. Tout cet argent, il va où? Il a fait quoi? Comment est-ce qu'il y a une telle augmentation de la masse monétaire et que par deux mesures, certes très imparfaites, mais quand même, qui normalement devraient être à peu près corrélées, qui sont l'investissement productif et puis la production économique, on a des chiffres beaucoup plus bas. Sur la période 2000-2012, si j'ai bonne mémoire, parce que tout à l'heure je disais, mais attention, la monnaie c'est à 95% les banques commerciales qui le créent. Sur l'Union européenne, entre 2000 et 2012, le bilan des banques privées, cette fois-ci, il augmente d'environ 80%. Et sur la même période, le PIB de l'Europe, il augmente de 30%. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la taille des bilans bancaires, donc fondamentalement de la monnaie, augmente, dans cet exemple, par exemple, deux fois et demi plus vite que la production économique. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors que la vraie richesse, c'est ce que vous mettez en exergue, monsieur, c'est la production économique. Et en fait, le qu'est-ce qui se passe, c'est très simple. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de théorie économique, je vous rassure, mais il y a une équation... Frédéric me contredit s'il a une vue différente, qui est relativement bien admise, avec beaucoup de nuances, par les économistes. Bon, ça s'appelle Cobb-Douglas, qui en gros dit, pour faire de la production, on met du capital du travail dans des proportions juste de capital du travail, puis on a la production économique. Et c'est assez intéressant, parce que Dieu sait si les économistes ont leur lot de polémiques et de désaccords, mais en gros, le fait de dire qu'il faut mettre du capital du travail pour produire, il y a un assez bon consensus. Mais... si on essaie de rejoindre cette équation et puis les chiffres que je viens de donner, et on se dit, bah, tiens, l'argent, il devrait être transformé en capital, logiquement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça ne s'est pas transformé en production. Alors, soit la productivité du capital s'est effondrée, mais alors ça, si on a notre belle équation, ça voudrait que la productivité du travail a été multipliée par, de façon considérable, Or, la réalité, c'est non. Je ne veux pas dire qu'elle n'a pas évolué ici ou là, enfin, suivant pas nos proportions. Soit il y a une fuite en dehors du système, soit l'argent, il ne va pas, parce que le capital de notre belle équation de production, c'est par construction, évidemment, c'est une évidence du capital productif. Donc, vous voyez, derrière votre question, il y a toutes ces questions-là. Donc, on va pouvoir se poser la question, d'ailleurs, de capital productif.
Christine Guinard, juste une interrogation par rapport à vos explications. C'est pour avoir les résultats que vous mentionnez là dans les chiffres que vous citez sur l'économie réelle par rapport au PIB ou par rapport aux autres chiffres. Est-ce qu'il était nécessaire finalement d'injecter autant dans les proportions? Parce que finalement vous dites voilà, ça a été multiplié par 500 aux États-Unis, 300 en Europe. Est-ce que finalement on était obligé d'en passer par là quand bien même il se passe des choses et on se demande ce qui se passe pour avoir les résultats in fine? Ou est-ce qu'on aurait pu avoir des résultats équivalents sans en passer par cette création de monnaie par les banques?
De mon point de vue, si on était dans un système où... Je prends une comparaison qui a des limites, mais qui fait passer l'idée. On a une grosse canalisation d'eau, avec beaucoup d'eau qui arrive d'un côté, puis il y a des fuites dans tous les coins. Et en bout de chaîne, le bout de chaîne étant l'économie productive, il y a un peu d'eau qui arrive. Mais si on avait une canalisation qui n'était pas percée de tous les coins, on aurait pu stimuler l'économie, certes en créant de la monnaie, mais dans des proportions bien moindres. Donc, ça serait un petit peu ma réponse succincte.
Une autre question, excusez-moi. Un emprunt pour le remboursement de la dette, vous le logez où du coup?
Un emprunt pour le remboursement de la dette. Donc vous avez emprunté de l'argent à une banque?
L'État emprunte et
L'État ou...
L'État. Au niveau de l'État.
Quand vous dites vous le logez où?
Socialisation de dette privée.
Alors, il faut distinguer si l'État a gardé sa souveraineté monétaire ou pas. Parce que dans la zone euro, les États ont abandonné cette souveraineté monétaire. Bon. Si un État... il y a, même quand il y a une souveraineté monétaire, au moins nominalement, vous prenez la Grande-Bretagne ou les États-Unis, le Trésor émet une dette. D'accord, c'est une dette du Trésor américain. Voilà. Et puis, donc ça, c'est pas stricto sensu, ce n'est pas de la monnaie. Après ça, l'une des caractéristiques des marchés financiers, et c'est un point sur lequel, mais c'est très bien, je suis pas obligé d'aborder dans l'ordre, le marché financier, c'est un endroit où l'instrument financier va se convertir en monnaie. Enfin, c'est un endroit de transformation de la monnaie en instrument financier et vice-versa. C'est-à-dire que quand vous réalisez, quand vous pensez... C'est-à-dire que la dette de l'État, stricto sensu, c'est pas de la monnaie. La dette de l'État. Par contre, à l'instant, si vous êtes trader, teneur de marché, comme on dit dans le jargon, market maker, et que votre métier, c'est de faire un prix sur cette dette d'État, quand vous faites un prix, vous dites, moi, la dette de l'État américain, je paye tant pour ça, et tu me vends ta dette, je te donne de l'argent, qu'est-ce que vous avez fait? Concrètement, vous avez transformé un instrument financier en monnaie. D'accord. Et c'est tout le débat... Sandra, on a parlé très rapidement tout à l'heure de la liquidité. En fait, la liquidité du marché financier, c'est avec des spécialistes, des traders fondamentalement, qui font ce travail, eh bien, ils transforment un instrument financier en monnaie. Et, enfin, dans un sens et dans l'autre. Et de la monnaie en instrument financier. Donc, ils ont un pouvoir qui est quasi monétaire. Et c'est là que le marché financier, qui stricto sensu, n'est pas la même chose qu'un marché monétaire, devient un marché quasiment monétaire à partir du moment où on peut échanger très, très rapidement. Je passe ça à répondre à votre question.
Simplement, par rapport à vos explications, notamment sur le gonflement de la masse monétaire, par rapport à l'évolution de la valeur productive réelle, du système productif, vous n'évoquez pas l'effet spéculatif, c'est-à-dire justement, il y a quand même un jeu sur les places financières, où on est de plus en plus éloigné, finalement, de sur quoi est adossée la monnaie. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de crises à ce propos. Comment vous placez ça dans votre mécanique qui est extrêmement, finalement, bancaire, entre la monnaie, effectivement, scripturale, passif, inactif? Il y a d'autres comportements et il y a d'autres effets pour expliquer, à mon sens,
bien
ce
sûr,
type de
bien sûr. Et là, merci. Là, en fait, on arrive à la question de... Là, je disais, il faut qu'on regarde d'où vient l'argent, on a commencé à regarder, et puis où il va. Et dans le « d'où il vient », il y a fondamentalement, à l'instant où on va, où les acteurs financiers vont utiliser de l'argent, il y a deux sources, ou les acteurs économiques, il y a deux sources possibles. Il y a la source crédit bancaire, dont je viens de parler, et puis il y a la source investissement. Parfois, ça va se rejoindre, c'est là que bon, ça peut devenir complexe, mais ce qu'il faut bien voir... c'est que l'investissement, c'est de l'utilisation de l'argent, on va dire, préexistant, de l'argent qui a été créé, qui, in fine, appartient à des particuliers, hein, parce que les grandes institutions financières, en bout de chaîne, il y a toujours des particuliers derrière, une myriade de particuliers, et les quelques sous d'épargne qu'on peut tous avoir, ceux qui ont la chance de pouvoir en avoir, sur un compte, sur un fonds de placement, que sais-je, eh bien, c'est l'argent qui est préexistant. Et donc cet argent, il va falloir l'investir. Donc on voit bien qu'on a deux sources d'argent possibles, qui est, je vais à la banque, j'emprunte des sous, ça crée, mais à l'instant où j'emprunte, ça crée de l'argent, ou je vais recycler de l'argent existant. Et voilà, ça c'est une première chose. Et puis après ça, dans la destination, il y a la destination économie productive, et puis il y a une destination qui est une sphère financière qui fonctionne pour la sphère financière et uniquement pour la sphère financière. Donc c'est pour ça que cette matrice à deux entrées et deux sorties est importante à avoir en tête, parce qu'après ça, bien sûr, dans le monde réel, on va pouvoir croiser dans tous les sens. Et pour comprendre ce qui se passe. Alors, plongeons dans le monde de l'allocation du capital financier. Ça va aussi... voilà. Alors, j'ai bien dit capital financier, c'est-à-dire l'argent qui existe, qui préexiste, l'épargne qui a été accumulée par les uns, les autres. Comment est-ce que ce capital financier, il va être... alloué. Déjà, c'est important de bien faire la distinction. Il peut être alloué via un marché financier ou il peut être alloué en dehors du marché financier. On peut tous investir dans la SARL créée par notre cousin préféré sur une activité X. On a alloué du capital en dehors d'un marché financier sur un projet économique réel. De façon plus industrialisée que les 10 000 euros que je veux mettre dans la SARL de mon cousin, il y a tout ce qu'on appelle, dans le jargon, il y a beaucoup de jargon anglais, tout ce qu'on appelle le private equity, autrement dit, les fonds d'investissement professionnels, mais qui investissent dans des entreprises de façon non cotée. Donc fondamentalement, l'acte à la base, quand on y réfléchit, c'est la même chose que quand je mets de l'argent dans la SARL de mon cousin, sauf que c'est fait à échelle industrielle, alors soit en capital risque, soit en argent de départ d'une entreprise, soit en capital risque, soit en capital développement, soit en ce qu'on appelle LBO ou autre. Mais tous ces métiers-là, ce sont des métiers qui ont comme fonction d'allouer du capital financier, on est clairement en capital financier, mais en dehors des marchés. C'est quelque chose qui est très important. Parce que on va certainement tout à l'heure aborder un certain nombre de dérives du système financier. Il faut déjà regarder à quoi il sert et en quoi il est utile. Ces gens-là, on ne peut pas leur reprocher de ne pas louer de l'argent à l'économie productive. Parce que quand ils mettent de l'argent, c'est pour aller dans une entreprise. Après ça, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est fait dans le respect d'un certain nombre de choses? Est-ce que leurs objectifs sont compatibles avec le développement économique? Et est-ce que les jeux de pouvoir et de cupidité ne font pas dériver la machine très souvent? Certainement. Mais ce n'est pas intrinsèque à l'acte d'investir dans une entreprise. Puis à côté de ça, il y a les marchés financiers. Un marché financier, j'enfonce une porte ouverte, c'est un endroit où on va s'échanger des instruments. D'accord ? C'est-à-dire que, à la base, c'est la même chose. Quand je souscris une augmentation de capital d'une entreprise cotée en bourse, je me donne de l'argent, j'investis de l'argent dans une entreprise qui va l'utiliser pour son développement. Sauf que l'action que j'ai eu en échange, je vais pouvoir la revendre sur le marché. À quoi ça sert un marché financier? C'est très important parce que c'est une conséquence qu'on va voir dans 2 minutes, qu'il faut absolument avoir en tête pour comprendre à la fois le bénéfice des marchés financiers et puis leurs dérives, qui ne sont pas minces. Un marché financier, ça sert à quoi? Ça sert à apporter de la transparence. Ça sert aussi à apporter la possibilité de ressortir de son investissement quand on veut, en théorie. D'accord. C'est-à-dire que moi, je me dis, tiens, je pense que telle entreprise, pour des raisons X, Y, Z, a commencé par cette perspective, j'aimerais bien investir dedans, je vais acheter des actions de l'entreprise qui est cotée en bourse. Mais si j'ai besoin d'argent dans un an, je pourrais toujours revendre mes actions, et puis la vie continuera, je verrai ce que ça vaudra à l'époque, et puis ça continuera. Donc le but d'un marché financier, c'est ça, c'est apporter une transparence, apporter une liquidité, le mot est lâché, et puis aussi être aussi une jauge de la valeur des choses. C'est-à-dire que, alors là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. J'ouvre un écran, on me dit l'action X vaut 10, et je sais qu'il y a 1000 actions dans la nature, et bien je sais que l'action vaut 10 fois 1000 égale 10 000. Voilà. Donc ça y est, je sais ce que vaut, en tout cas le prix de cette entreprise sur le marché. Donc c'est aussi une jauge de la valeur des choses qui a beaucoup de conséquences. Quelque chose de très 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 important à comprendre, c'est qu'un marché financier va créer sa propre demande. Et c'est là qu'on commence à changer de nature par rapport à toutes les autres activités financières. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez et qui permet de comprendre beaucoup. Il y a 2 ou 3 clés pour comprendre le système financier, et notamment celui qu'un marché crée sa propre demande. Je m'explique. L'évolution d'un cours, elle est liée, en théorie, et après ça on va en pratique, en théorie, au fait que je pense que les perspectives économiques, on va raisonner sur une action, mais ça vaudra aussi pour une obligation, les perspectives économiques d'une entreprise sont telles que ses bénéfices vont augmenter et donc que sa valeur va augmenter. Admettons que je sois prêt à avoir une rentabilité de, on va faire un calcul simple, de 10% sur une entreprise et qu'elle fait 10 de bénéfices tous les ans, et bien 10 fois 10, je considère cette entreprise, elle peut valoir 100. Et puis si le management de l'entreprise me dit « Ah oui, mais l'année prochaine, je vais plus faire 10, je vais faire 15 de bénéfices », si je pense que 10% c'est toujours bien, je fais 15 fois 10, et maintenant cette entreprise, elle vaut 150. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, alors, c'est pas une science exacte, mais enfin, il y a quand même des façons de calculer ça qui sont relativement rationnelles. L'erreur, il y a l'approximation, mais enfin, c'est une forme de rationalité. D'accord ? Ça, c'est la valeur dite intrinsèque. Mais la réalité, c'est que le marché financier ne va pas fonctionner comme ça. Il ne va pas fonctionner sur la valeur fondamentale, mais il va fonctionner sur l'anticipation de ce qu'il y aura demain. Il y a un petit texte absolument merveilleux à lire, qui est le chapitre 12 de la théorie générale de Keynes. Keynes, le grand économiste, l'un des grands économistes du XXe siècle. Et dans la théorie générale, dans son chapitre 12, Keynes compare les marchés financiers, et on vient à la question de madame sur la spéculation tout à l'heure, à un concours de beauté. Et il dit, la réalité d'un marché financier, donc de la spéculation, n'est pas de savoir qui est la personne la plus belle qui se présente au concours de beauté, mais qui les autres membres du jury vont penser, vont trouver la plus belle. Et le jeu ne consiste plus à savoir si telle ou telle personne, l'image a des limites, mais celle que prend Keynes, est intrinsèquement belle ou pas, c'est de savoir qui les autres vont penser être la plus belle. Ce qui veut dire que dans mon exemple d'une entreprise qui valait 100 et puis qui tout d'un coup peut valoir 150, si pour une raison quelconque, les investisseurs pensent que sur le chemin entre 100 et 150, elle va d'abord passer par 80, même si elle peut valoir 150 au bout de compte, elle va commencer par baisser à 80 avant probablement de remonter plus tard. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que quand je dis qu'un marché financier va créer sa propre demande, ça veut dire que sur la myriade de produits qui sont cotés sur les marchés financiers, dont beaucoup, je n'ai pas dit tous, c'est important, je pense, de mettre de la nuance, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais dont beaucoup peuvent soulever la question de leur utilité réelle. On pourrait se dire, mais s'ils ne sont pas utiles, comment se fait-il qu'ils existent même? Parce que si c'est inutile, bah, tout le monde s'en moque. Si tout le monde s'en moque, ils vont pas, il n'y aura pas de demande. S'il n'y a pas de demande, il ne se passera rien. La réalité, c'est que je cote ce stylo sur un marché financier demain. D'accord, vous allez me dire, ça sert à quoi de coter son stylo? Réponse probablement à rien. Mais si quelqu'un se dit, ah oui, mais le cours va baisser, eh bien, le seul fait qu'il y ait une anticipation de variation de cours va faire qu'il y aura des achats-ventes. Et si je suis vendeur, bah, si je me dis que quelqu'un est prêt à le payer 3 euros alors que je pourrais le racheter à 2 euros demain, ça y est, le jeu de la spéculation a commencé. Ou dans le sens inverse, ça n'a pas d'importance. Donc, le marché financier va créer sa propre demande. Je vais vous donner un exemple très concret. Au début des années 2000, je travaillais dans une grande banque et j'étais co-responsable d'une activité de financement d'entreprises sur les marchés financiers pour cette banque. C'était la naissance des marchés de dérivés de crédit. Un dérivé de crédit, c'est une assurance cotée sur un marché contre le défaut d'un emprunteur. Donc ça fait le lien entre l'activité bancaire, je prête de l'argent, et puis le fait d'assurer contre le défaut. C'est-à-dire qu'on a la société Alcatel qui a emprunter de l'argent, qui a émis des obligations sur les marchés, donc qui s'est endetté. Et puis, il y a un dérivé de crédit qui va dire « Si Alcatel fait défaut, à ce moment-là, je te rembourserai ta dette. » Et ce dérivé de crédit, il s'est mis à devenir un instrument financier coté non pas en bourse stricto sensu, mais sur les marchés financiers. Et là, on pourrait se dire « Mais ça sert à quoi ?» L'argument des gens qui développaient ça à l'époque, c'était de dire « c'est formidable parce qu'on allait voir les banquiers, je m'inclus dans les gens qui faisaient ça à l'époque, puis on disait « regardez, c'est formidable, vous allez pouvoir prêter à Alcatel sans prendre le risque sur Alcatel. Si Alcatel fait défaut, vous ne perdrez pas d'argent grâce à mon super produit. » Et là, les banquiers traditionnels, ceux qui avaient passé leur vie à prêter de l'argent aux entreprises qu'ils pensaient être solvables, disaient « mais si je n'aime pas prêter de l'argent à Alcatel dans mon exemple, je vais juste ne pas lui prêter. Quel est l'intérêt de lui prêter pour m'assurer contre son défaut sachant que le prix que vous allez me faire payer, c'est le prix que j'aurais gagné en prêtant de l'argent à Alcatel. Donc là, il y a un truc que je ne comprends pas. » Donc fondamentalement, la réponse de ces banquiers, on va dire traditionnels, par rapport aux gens de marché qui leur disaient « regardez, c'est formidable, on va pouvoir fabriquer ce produit qui a ses avantages », c'est-à-dire « votre truc, ça sert à rien ». Malgré ça, au moment de la crise financière...